Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. En ce moment, on parle beaucoup de l'empreinte carbone du secteur de l'aéronautique et ça fait longtemps que je voulais traiter ce sujet dans le podcast. C'est chose faite avec l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on parle de cette empreinte et de l'avenir du secteur à travers le parcours de Jérôme qui a travaillé à la fois en tant qu'ingénieur et en tant que pilote avant de décider de le quitter. Il nous explique ce long cheminement et offre des perspectives d'avenir à ceux qui travaillent dans le secteur aujourd'hui et cherchent d'autres voies. Bonne écoute.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jérôme, tu es ingénieur de formation, diplômé de SupAéro. Tu as passé plus de 10 ans dans le secteur de l'aéronautique, alors à la fois chez Airbus en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant que pilote chez Ryanair. Et depuis quelques mois, tu as quitté ce secteur pour rejoindre un nouveau projet dans le transport vélique. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ce changement de voie ?
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, hein, ce qui s'est passé, c'est que je suis toujours passionné par les avions. Quand j'étais petit, c'était vraiment quelque chose dont j'étais fan. Et donc, naturellement, au cours de mes études, je me suis orienté vers un diplôme d'ingénieur aéronautique. Et à l'issue, je me suis pas trop posé de questions. Je suis parti dans le secteur aéronautique chez Airbus, où j'ai travaillé 10 ans dans le domaine du système de commande de vol, en fait, tout ce qui est contrôlabilité de l'avion, on va dire. Donc, 5 ans dans les qualités de vol, c'est vraiment la contrôlabilité au sens pur, au sens physique du terme, on va dire. Et ensuite, 5 ans plutôt comme ingénieur système commande de vol, donc la mise au point des cerveaux, un des ordinateurs de l'avion qui contrôle l'avion. Puis après ces 10 ans en tant qu'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de devenir pilote de ligne chez Ryanair. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Puis là, j'ai profité un petit peu du temps libre que j'avais pour me poser quelques questions. Et je me suis dit que le transport aérien, c'était peut-être pas un secteur d'avenir. Et donc, j'ai regardé pour me réorienter. Et voilà, j'ai atterri dans le transport vélique. Donc, ça peut paraître étonnant, mais ça s'est passé comme ça, brusquement.
D'accord. Alors, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est que le transport vélique ?
Oui, alors, transport vélique, en fait, hein, ça veut dire qu'il utilise la force du vent. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la force du vent essentiellement pour le transport maritime. Donc, pour tout vous dire, en fait, là, j'ai rejoint une entreprise qui développe un système donc, de transport vélique, ce qu'on appelle rétrofitable, c'est-à-dire qu'on peut ajouter sur des navires de commerce existants. Donc, le but, ce n'est pas de se substituer complètement au moteur, donc à énergie fossile existant, mais d'économiser de l'énergie fossile. Donc, l'intérêt, hein, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez simple à utiliser, de facilement ajoutable sur un navire existant. Et donc, comment ça marche ? L'idée, hein, c'est d'avoir ce qu'on appelle une voile souple. C'est un petit peu une aile de cerf-volant, une aile de kite qu'on va piloter à l'avant du navire quand il y a du vent. Et quand il n'y a pas de vent, on la replie. Hein, et du coup, on utilise 100% de la puissance moteur disponible.
Et c'est quelque chose de nouveau, ça, le transport vélique, ça se développe depuis un moment ?
Alors, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent quand même dessus, sur les solutions qu'on essaie de mettre en place depuis plus de 10-15 ans. Mais on va dire qu'il y a une boîte, hein, surtout, qui a travaillé dessus, qui est arrivée trop tôt. C'est-à-dire avant la prise de conscience environnementale et les contraintes, on va dire, au niveau organisation mondiale maritime, pour obliger les opérateurs de navires à réduire leurs émissions de CO2. Et donc, là, maintenant, il y a toute une activité qui se développe. Alors, il y a plusieurs solutions concurrentes, hein, qui sont en train d'être développées en parallèle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Organisation internationale maritime demande aux opérateurs de réduire leurs émissions de CO2 de façon significative. Et donc, il y a un jalon assez important en 2025. Et il y en aura d'autres après. Et en fait, finalement, il y a cette contrainte qui arrive, mais la solution technique, elle n'est pas là. Donc, alors, on en a une première quand même qui est de ralentir la vitesse des navires. Mais pour tenir les objectifs, il va falloir trouver d'autres solutions. Et donc, tout le monde cherche pour voir comment on peut utiliser la force du vent. voilà.
D'accord. Donc ça vient d'abord en fait d'une nouvelle réglementation qui force les transporteurs en fait à réduire leurs émissions.
Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est assez fort, alors c'est peut-être naïf, hein, je sais peut-être que je connais pas bien le secteur maritime, je sais pas, mais ce que j'ai eu l'impression entre le secteur maritime et le secteur, on va dire aéronautique, c'est que là, on met la contrainte avant d'avoir la solution technique. Donc il y a quelque chose qui semble être un petit peu plus authentique que les grandes décisions, on va dire, prises au niveau aéronautique, où là, il s'agit plus de systèmes de compensation carbone un petit peu hypocrites. Là, il y a quelque chose qui me semble un petit peu plus authentique. Après, je suis peut-être encore dans la naïveté, hein, je ne sais pas.
Alors, tu parles de l'aéronautique. Je te propose qu'on replonge là-dedans, que tu nous expliques un petit peu plus quel était ton métier. Puis ton expérience de pilote, je trouve que c'est quand même assez marrant et puis assez dingue en fait que tu passes du métier d'ingénieur à celui de pilote. Et puis que tu nous dises un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi tu as décidé de changer.
Oui, oui. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai un parcours, on va dire, un petit peu surprenant. Je pense qu'en fait, ça vient que quand j'étais petit, bon, j'étais fan de bande dessinée, hein, Bug Dunny, Tanguy la Verdure, et j'ai toujours eu tendance à avoir une vie aussi bien côté pro que perso, assez proche des gens que je voyais dans les bandes dessinées. Donc ça peut paraître un petit peu fou, des fois ça l'est. Donc en fait, au début, ce qui m'a motivé, hein, la sortie de mes études, là, quand je suis rentré chez Airbus, en travaillant dans tout ce qui était système donc de commande de contrôlabilité des avions, donc d'abord sur les qualités de vol, c'était travailler, en fait, contribuer à tout ce qui était sécurité aérienne, en fait. Puisqu'il y avait une grosse partie de mon métier qui était d'analyser les incidents en vol et de voir ce qui s'était bien passé, mal passé, et voir comment on pouvait améliorer les choses pour que ça ne se reproduise plus. Donc j'ai eu la chance, ou pas, hein, ça dépend selon les motivations, mais de travailler sur des accidents qui ont été considérés comme historiques, hein, pour Airbus, en particulier la disparition du Rio Paris, où je fais partie des contributeurs, hein, des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui ont publié pas mal de courbes dans le rapport du BEA, hein, qui c'est beaucoup de simulations que j'ai faites qui étaient dans ce rapport. Et donc, une fois, après ces 5 ans où j'ai beaucoup passé de temps, en fait, à comprendre ce qui arrivait quand ça se passait mal, j'ai voulu plutôt être acteur pour proposer des solutions pour améliorer encore et toujours la sécurité aérienne. Et je suis passé donc du coup plutôt côté développement des ordinateurs de contrôle de l'avion pour, en fait, c'était repousser encore la probabilité d'un accident en partant du fait que les pilotes deviennent de plus en plus mauvais. Parce qu'en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à l'accident de Rio Paris, on comptait quand même beaucoup sur les pilotes pour bien réagir quand il y avait des pannes. Et on a vu que le niveau moyen des pilotes, hein, mais ça, c'est entre guillemets, c'est pas un tabou dans l'industrie du training. Ce qu'on appelle de la formation des pilotes, hein, c'est que le niveau moyen des pilotes baisse, et d'ailleurs il y a beaucoup d'actions aussi bien niveau formation que donc niveau modification système pour améliorer ça. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans là-dessus, et c'est vrai que ce qui me motivait, c'était vraiment me dire les avions, ça sert à réunir des gens, des familles qui sont dispersées à droite à gauche. Alors j'ai découvert après que c'était pas que ça, et du coup ce que je voulais, c'était vraiment contribuer à avoir l'avion, une industrie la plus sûre possible. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit piment, parce que quand vous développez des ordinateurs de commande de vol et que après, si vous avez la malchance d'avoir un avion sur lequel vous avez travaillé qui se crache, vous avez toujours un petit doute de dire, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien ou pas, est-ce que j'ai fait une bêtise. Et surtout, vous avez toujours les médias qui vous tombe dessus, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez surtout quand c'est un Airbus qui tombe, quasiment tout le temps sur les forums, on dit c'est la faute du système commande de vol, avant même d'avoir commencé l'enquête. Donc ça a été quelque chose qui a été d'ailleurs assez lourd à porter au moment de l'accident de Rio Paris, parce qu'il a fallu 2 ans pour retrouver les boîtes noires. Pendant 2 ans, on était montré du doigt, et c'était quand même pas super sympathique. Mais voilà, donc ça c'est, on va dire, l'aspect qui m'a vraiment motivé au début, hein. J'étais vraiment, on va dire, porté sur tout ce qui était ce qu'on appelle, hein, en anglais safety, hein, on va dire sécurité des vols. Et en fait, derrière, avec mon côté du coup bande dessinée, aventurier et tout, je me disais ça peut être comme cool d'être pilote, surtout que de par mon métier, je passais quand même beaucoup de temps dans les simulateurs à tester des 4 pannes et tout ça, et d'être au contact de pilotes d'essai. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire une formation de pilote, donc en fait, on va dire modulaire, c'est-à-dire que c'est par le cursus Aero Club avec des cours du soir, en fait, par correspondance pour la partie théorique du diplôme de pilote de ligne. Puis ensuite, des stages pratiques que j'ai pu faire avec ce qu'on appelle un fonds GESIF. Donc, c'est un fonds de formation. Maintenant, je crois que ça a changé de nom. Donc, je me suis absenté 3 mois du boulot pour passer des modules. Et au début, je n'avais pas vraiment prévu de faire ça pour être pilote de ligne, mais c'était, je voyais ça plus comme un, on va dire comme un bagage supplémentaire pour ma carrière d'ingénieur au service de la sécurité des vols et d'améliorer tout ce qui est sécurité aérienne. Et puis, à un moment donné, il se trouve que le programme sur lequel je travaillais, là, côté 380, il y a eu une petite baisse de régime. Et à ce moment-là, il y avait Ryanair qui, eux, cherchaient désespérément des pilotes. Et je me suis renseigné, j'ai passé des sélections chez eux, j'ai été pris. Et après, moi, je me disais, ben non, j'ai pas envie de faire pilote toute ma vie, mais est-ce que je peux pas obtenir une sorte de détachement, négocier, travailler pour eux un certain temps et puis revenir à Airbus. Et j'ai réussi, alors je passe les détails, c'était assez compliqué à mettre en place, mais j'ai réussi à obtenir cette solution-là. Et donc, je suis parti 2 ans comme pilote de ligne chez Ryanair, où là, j'ai découvert un monde complètement dément, entre guillemets. Donc, déjà, au début, je partais avec un a priori sur Ryanair, parce qu'on dit quand même beaucoup de mal de cette compagnie, on va dire beaucoup de Ryanair bashing vis-à-vis des conditions sociales et tout ça. Après, on dit rarement ce qui est quand même un petit peu mieux. Je veux dire, c'est quand même une compagnie qui donne leur chance à tout le monde. C'est-à-dire, entre guillemets, moi, quand je suis arrivé pilote chez eux, j'étais un vieux pour commencer le métier comme pilote. Et en fait, on regarde pas votre passé. On vous propose de vous faire confiance. Si vous êtes bon, vous restez. Si vous êtes moins bon, vous partez en fait. Mais derrière, il y a quand même une volonté de vous accompagner pour vous réussissiez. Et donc, c'est pareil pour toutes les professions. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès dans les pays en fait où il y a un fort taux de chômage chez les jeunes. Donc, tout ce qui est Portugal, italien, les Grecs. Les Espagnols, en fait, on en retrouve beaucoup chez Ryanair parce qu'ils proposent ces options. Si vous êtes motivé, vous pouvez faire votre place. Et donc, je suis arrivé là-bas et là, en fait, j'ai découvert la vie de pilote de ligne. Et c'est vrai que il y avait un côté fantastique. C'était mon rêve de gosse. On pousse la manette des gaz, on décolle, on est tous les jours, on voit le soleil entre guillemets quand on fait des vols de jour. Les vols de nuit, j'aimais moins. Quand on rentre tard le soir avec le retard, ça c'était quand même beaucoup plus fatigant. Il y avait le côté fabuleux de la compagnie qui est que finalement vous êtes pilote, mais ce qu'on veut, c'est que vous opériez l'avion. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'aller dans la soute à bagages pour chercher une poussette pour une maman qui attendait sa poussette parce qu'il n'y avait personne pour décharger l'avion. Ça m'est arrivé de mettre les cales de mettre les cales après arriver au stand parce qu'il n'y avait personne pour mettre les cales. Ça m'est arrivé d'aller. On devait régulièrement, sur certains aéroports, aller. Faire le plein nous-mêmes de l'avion. Donc voilà, c'était moi j'aimais bien parce qu'en fait je suis quelqu'un qui touche à tout et c'était une grande expérience. Après c'est aussi un moment où du coup du fait même du métier de pilote j'ai eu beaucoup de temps libre parce qu'en fait pilote, alors même si Ryanair on est parmi les pilotes qui voluons le plus, je parle avant la crise, la limite légale en Europe c'est 900 heures par an de vol. Et malgré ça, en fait, on va pas mentir, ça fait quand même beaucoup de temps libre. Surtout que quand vous volez, généralement, vous avez des journées qui sont assez grosses, 10-12 heures. Donc en fait, ça fait beaucoup de jours de repos. Nous, on avait un rythme, c'était 5 jours on, 4 jours off, voire des fois plus. Et du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup de temps libre. Et en plus, ce temps libre, c'est potentiellement quand vos amis, votre famille travaillent. Donc en fait, ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à un moment donné, à changer. Ça, je pense qu'on va discuter après. Donc. Mais voilà un petit peu comment ça s'est passé, cette vie chez Ryanair. Et du coup, à l'issue, je suis revenu à Airbus, puisqu'en fait, on va dire, ce temps de réflexion, je me suis dit, l'aéronautique, c'est peut-être pas un secteur d'avenir. Il y a peut-être des limites que je n'avais pas vues ou qu'on m'en avait parlé quand j'étais étudiant, mais je me disais, oui, ce serait pour dans longtemps. Et là, dans longtemps, ça se rapproche. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que tu es quand même ingénieur? C'est un petit peu bête d'utiliser ton diplôme d'ingénieur pour trifouiller des boutons sur un tableau de bord et juste voir le soleil tous les jours, c'est-à-dire en fait juste pour ton plaisir personnel. Peut-être qu'il faut que tu sois utile à la société. Donc, en fait, je me suis dit, je reviens comme ingénieur d'abord à Airbus. Et puis, le retour Airbus a été un petit peu douloureux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait le saut pour quitter le secteur aéronautique. J'ai pris la décision de partir dans le secteur. En fait, je voulais contribuer à tout ce qui était décarbonation hein, de l'industrie. Donc, je voulais soit aller dans le secteur énergétique, soit un secteur de décarbonation du transport, mais dans un transport un petit peu plus efficace que l'aviation.
Puisque... Alors, ouais, excuse-moi, je te coupe. J'ai plein de questions, du coup,
vas-y.
Par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, la première, par rapport juste au métier de pilote, ce qui est fascinant quand on t'écoute, c'est qu'on a l'impression que le métier de pilote n'est pas forcément un métier dans lequel on a besoin d'avoir fait beaucoup d'études ou avoir finalement énormément de compétences, que c'est assez facile d'accès.
Alors, en fait, il y a quelque chose de paradoxal dans le métier pilote. Je dirais que ce n'est pas facile d'accès. Après, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Mais ce qui se passe, hein, force est de constater, c'est que si on n'a pas fait beaucoup d'études, la barrière, elle va être financière. En Angleterre, il y a des gens, effectivement, même sans bac, hein, qui vont, parce que les parents peuvent aligner 100 000 euros ou 150 000 euros, avoir une formation privée et avec un bon encadrement, vont réussir. Mais derrière, il y a quand même des difficultés, je dirais. Les principales difficultés dans le métier de pilote, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au début. Donc, il faut quand même être capable de bien organiser, on va dire, son cerveau pour structurer tout ça. Et après, c'est apprendre à travailler finalement dans un cadre où on est toujours sous pression. Alors, à la fin, on ne s'en rend plus vraiment compte, mais c'est-à-dire qu'on travaille quand même dans un environnement où on est sous pression temporelle. Et donc, il faut être capable de travailler avec cette pression et d'avoir un cerveau qui reste performant. Avec cette pression. Alors, ça peut être aussi bien quand vous êtes au sol, parce qu'il faut partir à l'heure. Donc là, il y a beaucoup de travail d'organisation et tout. Un petit peu, on est un peu la personne qui fluidifie le départ. Ça, c'est un des gros travaux du pilote chez Ryanair. Et moi, c'était la partie qui me plaisait le plus, mais qui était finalement le plus proche du métier d'ingénieur. Et après, il y a un travail qui en vol, où on va dire le cerveau est essentiellement actif dans les phases de décollage et surtout d'approche atterrissage pour gérer en fait ce qu'on appelle l'énergie, pas arriver trop vite, anticiper le trafic extérieur, les problèmes météo, les aléas météo, voilà, bon, il y a de l'orage à un endroit, est-ce qu'on veut vraiment aller à un endroit en fonction du carburant qui me reste. Donc tout ça, ça suppose d'être capable de mettre en place ce mécanisme de pensée et d'analyse sous pression. Alors il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Il y a des gens qui arriveront jamais. Mais après, en fait, le paradoxe, c'est que c'est dur pour acquérir hein, ces automatismes. Même moi, avec mon background d'ingénieur, qui avait l'habitude de travailler sous pression au début, hein, quand on fait la phase, ce qu'on appelle d'adaptation en ligne, c'est-à-dire on vole avec des instructeurs et tout, on se dit, oh là, c'est quand même dur. Et puis, en fait, au bout de quelques mois, on voit que tout commence à devenir plus fluide. Et là, on se dit, mince, en fait, c'est un métier qui est un peu bizarre. C'est un métier qui est dur pour le ticket d'accès. Et après, une fois qu'on y est, c'est vachement reposant, en fait, c'est plus du tout stimulant. Et en fait, c'est d'ailleurs, moi, je me pose la question de la pérennité de recruter des bons profils pour ce métier, puisque les gens qui vont bien réussir, c'est des gens qui vont s'ennuyer après. Et du coup, en plus, s'ils s'ennuient dans le métier, est-ce qu'ils vont être attentifs et performants pour la suite? Voilà, c'est la question ouverte, hein, honnêtement.
D'accord, ok, c'est hyper intéressant, parce que ce n'est pas du tout l'image que je pouvais avoir du métier de pilote. Je referme cette parenthèse. Pour revenir sur ce que tu disais, à savoir déjà en tant qu'étudiant, on t'avait dit que les métiers de l'aéronautique n'étaient pas forcément porteurs ou en tout cas avaient étaient limités dans le temps en termes de d'opportunités.
Oui, alors moi je suis la génération Chirac, on va dire, c'est-à-dire que quand j'étais en prépa, notre président préféré de l'époque avait dit le sujet en prépa pour faire vos travaux là, ce qu'on appelait les travaux d'initiative personnelle, je crois, quelque chose comme ça là, c'était pour présenter au concours, c'est le thème, ce serait le développement durable. Et donc déjà rien qu'en préparant le sujet, je me suis rendu compte que l'avion c'était peut-être pas un sujet d'avenir. Du coup, moi j'avais fait mon sujet sur les dirigeables et j'avais interviewé quelqu'un qui était passionné de dirigeables. Et qui en fait m'avait donné des ordres de grandeur assez éloquents. Il m'avait dit pour voir l'efficacité d'un moyen de transport, il faut considérer ce qu'on appelle la finesse utile. Donc la finesse utile, je vais essayer d'expliquer simplement en fait, c'est le rapport entre la charge utile qu'on peut transporter divisé par la traînée quand on est en vitesse de croisière. Donc la traînée en vitesse de croisière, en fait, c'est la force qu'il faut constamment appliquer pour continuer à avancer. Donc en fait, la finesse utile, si on veut, c'est la charge transportée divisée par la force qu'on met pour se déplacer. Donc ce qu'on comprend, c'est que plus cette finesse utile est grande, plus mon moyen de transport est efficace. Parce que c'est-à-dire pour une même force donnée pour me déplacer, je vais transporter plus de kilos. Donc je vais être plus efficace. Donc les ordres de grandeur qu'il m'avait donné, il m'avait dit, bah voilà, pour un bateau, à l'époque, il m'avait dit la finesse utile d'un navire, c'est 200. Alors c'est vrai pour les bateaux, on va dire, ancienne génération, plutôt marine à voile. Les nouveaux cargos là, sur lequel, pour lesquels je travaille, c'est carrément 2000. Voilà, donc ça donne une ordre d'idée. Hein. Finesse utile d'un navire nouvelle génération, c'est 2000. Finesse utile des navires plutôt voilà, du début du XXe siècle, c'est 200. Finesse utile d'un train, c'est 50. Finesse utile d'un TGV, c'est 20. C'est comme la finesse utile d'un camion. Finesse utile d'une voiture, on descend à 10. Et finesse utile d'un avion, on tombe à 5. Donc là, déjà, on se dit, c'est l'avion, c'était pas terrible. Alors, pour l'anecdote, la finesse utile du dirigeable, hein, parce que mon TIPE, c'était sur le dirigeable, c'était à peu près comme un camion ou un TGV, c'était 20. Donc, mais finalement, l'intérêt, c'est uniquement pour transporter des charges encombrantes et lourdes qu'on ne peut pas transporter en camion. Hein. Enfin, je referme la parenthèse. Mais donc, ce qui est intéressant, hein, c'est déjà quand on regarde ça. Alors, j'avais pas cette lumière-là, je l'ai eue après coup, par rapport à ce qu'il m'avait dit. Donc, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans à l'époque, enfin, 19 ans, quelque chose comme ça. C'est que finalement, ce qu'on voit, c'est que dans un monde où on était 100% en énergie renouvelable, on utilisait uniquement le navire, les navires, donc finesse utile 200. Dans un monde où la majorité de l'énergie utilisée était encore du renouvelable, on a commencé à utiliser le chemin de fer, donc le train, avec une finesse utile de 50. Voilà. Donc c'était finalement dans un monde énergie contraint, les deux systèmes de transport qui étaient utilisables, c'était la finesse utile la plus faible qui était acceptable, c'était 50. Et si on regarde après, le camion, hein, ça s'est vraiment développé qu'à partir du moment où on a eu accès à du pétrole abondant et pas cher. Donc là, on a commencé à utiliser des moyens de transport finesse utile 20. Et puis la voiture pour donc ça c'est dans les années 20-30. Hein. Puis après post Seconde Guerre mondiale où là on a vraiment compris l'intérêt d'utilisation du pétrole. Bah après il y a eu l'essor de la voiture individuelle en finesse utile 10. Et ce qu'on voit c'est que finalement le transport aérien s'est vraiment développé à la fin des années 80, hein, donc début des années 90. Il y a deux raisons à ça. Alors tout le monde voit la première raison hein, qui est la dérégulation du ciel. Hein. Il n'y avait plus besoin d'accord. Bipartie, bi-étatique entre deux États pour circuler. Mais derrière, c'est qu'il y a eu aussi le contre-choc pétrolier avec une inondation hein, de production de pétrole. Et on a eu beaucoup plus d'énergie, entre guillemets, abondante et pas chère. Et donc, ça devenait intéressant d'opérer de façon à large échelle un moyen de transport avec une finesse utile que de 5. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le premier warning que j'ai eu. Donc, je n'étais même pas encore arrivé à Super-Hero. Et là, je suis bête, je suis quand même allé à Super-Hero. Donc, je veux dire, le monsieur qui m'a pourtant bien encadré pendant le TIPE, il m'avait quand même mis en garde et j'ai été, je suis resté. On est comme on est ado, ado attardé, jeune, voilà, jeune, on fonce, on veut rester sur nos rêves. Et là, j'arrive en école d'ingénieur, donc à Super-Hero. Et on a eu un très, très bon prof de stratégie aéronautique qui nous a mis en garde aussi sur un gros problème. Alors, lui, c'était plutôt l'aspect énergétique. Avec qui dit on commence à approcher la fin du pétrole, on commence à approcher le pic pétrolier et le passage du pic pétrolier, ça ne va pas être quelque chose de sympathique pour l'aviation, donc méfiez-vous, il faut peut-être regarder ailleurs comme secteur. Donc il commence à mettre ça comme warning, et après, et là, mea culpa, parce que je n'y ai pas prêté plus d'attention à l'époque, mais j'avais quand même gardé ça dans un coin de ma tête, j'ai eu la chance d'avoir donc, Jean-Marc Jancovici qui était venu faire. 2 heures de conférence à Super-Hero. Et je m'étais posé quelques questions à l'époque. Et honnêtement, j'ai eu des gros doutes pour partir dans l'industrie aéronautique à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise de 2008. Je m'étais même dit, qu'est-ce que je peux faire avec mon diplôme d'ingénieur aéronautique ? Bon, on fait des systèmes complexes, on travaille sur des choses avec un bon niveau de safety, hein, ce qui me motive, hein, tu l'as compris, tout ce qui est safety. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je parte dans l'énergie nucléaire. Mais c'est 2008, c'est la crise, et j'avais fait un bon stage à Airbus. Airbus me propose de m'embaucher alors que toutes les embauches sont gelées à droite à gauche. J'ai pas dit non, entre guillemets. Je me suis dit, je vais à Airbus, et puis on verra après. Et puis le on verra après, commencer, hein, c'est qu'on est aspiré par la vie, par plein de choses, et puis on prend pas le temps de réfléchir et de se poser des questions. Donc on pose le cerveau, entre guillemets, on est la tête dans le guidon. Et puis les warnings que j'ai eus pendant mes études, bah, voilà, j'en ai pas tiré crédit, on va dire, à temps.
Et alors, c'est revenu quand tu as eu un peu plus de temps et quand tu étais pilote, en fait. Tout ça, c'est le fait de pouvoir réfléchir à l'impact.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors, je vais presque dire, finalement, hein, je me retrouve pilote chez Ryanair au moment où il y a une jeune Suédoise qui fait la grève pour le climat, donc Greta, pour ne pas la nommer, et qui dit, vous, les adultes, revenez à l'école, retournez à l'école. Et là, faut dire que moi, j'ai toujours aussi été un petit peu dans un sens assez schizophrène. C'est-à-dire que j'étais passionné d'aéronautique, mais moi-même, par exemple, pour mes déplacements privés, en vacances, je pars en vacances en France. C'est-à-dire que je suis fan de montagne. J'aime l'alpinisme, le ski de rando, la rando, l'escalade. Tout ça, je le fais dans les Pyrénées, parce que là, j'habite sur Toulouse, ou autrement, pendant l'été, dans les Alpes. Mais je ne suis pas quelqu'un qui voyage à l'autre bout du monde. Je ne vois pas l'intérêt de voyager à l'autre bout du monde. Mais par contre, je me disais, oui, c'est important d'avoir des avions pour réunir les gens et tout ça. Donc pour moi, et c'est vrai, il y a toujours, on va pas mentir, il y a une utilité sociale de l'aviation. Mais quand je suis arrivé chez Ryanair, donc ce qui s'est passé, c'est déjà, j'ai découvert que c'était du transport de masse. Il y avait des gens qui m'expliquaient qu'ils prenaient leur billet juste parce que ça leur coûtait le même prix de prendre un ticket de cinéma à Londres ou de faire un aller-retour à Toulouse dans la journée. Enfin, ça devenait complètement délirant. Et en fait, une grosse partie du transport aérien, pour moi, c'était du tourisme de masse boosté un petit peu comme de la consommation de masse. Je me disais, bah, à quoi ça sert? Et derrière, donc, en plus de cet excès, il y a Greta qui dit retourner à l'école. Et là, donc, avec ces petits doutes que j'avais quand même dans un coin de ma tête, je replonge dans les cours de Jean-Marc Jancovici. Je regarde déjà ce qu'il annonçait il y a 10-12 ans, les modèles de prédiction climat. Je regarde ce qui se passe 10 ans après, je vois qu'on est du mauvais côté du trait. Donc ça, pour un ingénieur, en fait, hein, quand il y a une prédiction à un moment donné, qu'on regarde 12 ans après et qu'on voit qu'on est du mauvais côté de la prédiction, qu'on est plutôt du côté, en termes d'évolution climat, hein, du côté le plus pessimiste, hein, pour une quantité de CO2 émise, là, ça interpelle. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, il va falloir faire quelque chose, là, il y a un problème sérieux. Donc ça a été le premier déclencheur, en fait. Donc on va dire que cette Suédoise m'a fait nous invectivant, c'est comme ça qu'on dit, nous les plus âgés, ça m'a fait du bien. Donc là, je me suis dit, ok, on va vraiment plonger dans des cours un peu sérieux. Donc je me suis refait, ils sont sur YouTube, hein, tous les cours de Jean-Marc Jancovici des Mines de Paris. Et puis après, une fois qu'on déroule, on se dit, oula, bon, faut un petit peu creuser plus. Alors il encourageait, il disait, il conseillait un très bon livre là, de Mathieu Zano, Or Noir. Donc là, pareil, hein, c'est un peu, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on commence à lire, on se documente, on se dit, bon, clairement, il y a un truc, et je ne vois pas comment les prédictions d'Airbus de dire que le transport aérien va doubler dans les 15 ans, ça peut se réaliser. Pour moi, en fait, il y a deux limites. Bon, il y a déjà la première, qui est, on va en parler peut-être plus longuement, hein, qui est climatique. Mais la deuxième aussi, c'est une limite énergétique. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que je découvre. C'est aussi en novembre 2018 que l'Agence internationale de l'énergie sort son outlook, hein, ses prévisions globales de l'énergie. Ils disent, oulala, on risque très certainement de manquer de pétrole à l'horizon 2025. Et en fait, ils nous ont informé que ce qu'on appelle, alors en fait, en type de pétrole, hein, pour faire simple, je vais essayer de simplifier, mais il y a deux types de pétrole, hein. Il y a le pétrole qu'on appelle conventionnel, qui est celui qu'en fait on cherche depuis très longtemps, hein, depuis qu'on en a découvert aux États-Unis là dans 1870. On a juste à se baisser pour le ramasser au début, même avec la pression, c'est sorti tout seul. Donc c'est un pétrole assez facile à aller chercher, hein, qui est quasiment gratuit à ramasser. Et en fait, la production de pétrole conventionnel, on a passé un pic de production quelque part entre 2006 et 2008. Et a priori, cette baisse de production du pétrole mondial aurait été un élément déclencheur de la crise, hein, des subprimes de 2008. Et après, ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que finalement, le rebond de production de pétrole qu'on a eu depuis, c'est grâce au pétrole dit non conventionnel. Donc c'est essentiellement le pétrole de schiste qui est produit aux États-Unis et le pétrole de sable bitumineux qui est produit au Canada. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que bah voilà, en gros, le problème, c'est que là, tous ceux qui opèrent dans le pétrole de schiste, alors c'est encore plus vrai maintenant, là, ça a été accentué avec la crise du Covid, bah, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, donc ils n'investissent plus trop dans des projets pour creuser, donc on risque de manquer de pétrole de schiste. Et derrière, en termes de découverte et même d'investissement dans des projets pour le pétrole conventionnel, ça ne suit pas non plus, parce qu'en fait, il n'y a plus non plus beaucoup d'endroits où creuser ou aller le chercher. Et donc, on risque, il y a une probabilité forte pour qu'on passe un de pétrole conventionnel quelque part entre 2020 et 2027. Donc on lit ça en 2018, on se dit ouais, quelque part entre 2020 et 2027, bon ben en fait c'est maintenant là. Et en fait, alors pourquoi je parle du pétrole, c'est que puisque finalement, enfin mon interprétation de l'aéronautique en ayant été chez Ryanair, ben, j'ai découvert quand même une chose, hein, c'est que l'essentiel des passagers qu'on transporte, c'est pour leurs besoins, on va dire, des motifs privés. Hein. Les ordres de grandeur, je crois que c'est à peu près 30%, c'est pour voyage d'affaires, hein. Je parle au niveau mondial, et donc 70%, peut-être un petit peu moins, pour du voyage privé, qui sont répartis, on va dire, entre d'une part le tourisme pur et de l'autre part ce qu'ils appellent les VFR, hein, c'est les Visit Friends and Relatives, donc c'est voir la famille. Mais en fait, toute cette partie-là, donc cette partie privée, c'est des gens qui voyagent parce qu'ils en ont les moyens, puisqu'ils ont suffisamment d'argent à la fin du mois pour pouvoir voyager. Et donc, plutôt que de voyager à côté de chez eux pendant leurs vacances, ils se disent « tiens, bah, je vais aller plus loin ». Et donc, pour moi, en gros, le transport aérien, ce n'est juste l'extension du tourisme par d'autres moyens. Ça veut dire que si pour une raison X ou Y, on a moins de pétrole chaque année disponible. Moins de pétrole chaque année, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au premier ordre, en tout cas avec les technologies existantes, moins de transformation, hein, moins d'énergie injectée dans l'économie, moins de transformation de tout ce qui est flux physique. Et donc ça, bon, c'est très bien expliqué, je ne vais pas refaire le prof, hein, c'est bien expliqué dans les cours de Jean-Marc Jancovici, mais ça veut dire moins de PIB à la fin. C'est-à-dire, hein, si votre production de pétrole diminue, le PIB, il va diminuer. En fait, hein, ça majore la croissance du PIB, la production de pétrole. Donc, si le PIB ralentit, on rentre dans une récession plus ou moins structurelle. Et du coup, les gens ont moins d'argent à la fin du mois. Et du coup, s'ils ont moins d'argent à la fin du mois, ils ne vont pas chercher, s'ils ont des vacances, à aller voyager loin. Ils vont juste se serrer la ceinture. Et quel est le premier poste qu'on coupe, hein? C'est tout ce qui est loisir, tourisme. On le voit même actuellement, hein, l'effet Covid, là. Ce n'est pas qu'un problème de limitation des gens pour se déplacer, c'est aussi que les gens, dans le doute, ils épargnent et que le premier poste on coupe, hein, c'est tout ce qui est voyage loin. Donc ça, c'est quelque chose qui risque pour moi de s'accentuer. Et après, l'autre phénomène qui risque d'arriver, hein, c'est le fait que bah, si vous avez moins de pétrole disponible chaque jour, hein, pour donner un ordre de grandeur, chaque jour, là, on produit, avant le Covid, on produisait 100 millions de barils par jour. Là, c'est retombé un petit peu. Mais en fait, c'était la consommation pour une économie avec un PIB du niveau de 2019. Sur ces 100 millions, vous avez 8% qui sont utilisés par les avions, kérosène. Et si, en fait, la production, elle baisse, bah, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que la part disponible pour les avions, elle baisse. Parce qu'en fait, il y a compétition avec les usages. Donc, dans ce cas-là, on a du mal à imaginer un doublement du transport aérien dans les 15 ans. Même s'il y avait un rebond gigantesque après le Covid ou quoi que ce soit, ça me paraît physiquement impossible. Et je me pose d'ailleurs la question dans quelle mesure on n'aurait peut-être pas eu un pic du transport aérien en 2019. On aura peut-être un rebond qui reviendra progressivement égaler le pic de 2019, mais je ne suis pas sûr qu'on le dépasse. Après, peut-être qu'on le dépassera, mais voilà, je n'en suis pas certain. En tout cas, je ne parierais pas dessus. Et du coup, c'est un petit peu ce qui m'a fait dire, hein, faut partir, aller voir ailleurs. Donc, il y a un petit côté aussi, se protéger soi-même. Hein. C'est-à-dire, se dire, je ne veux pas travailler pour un secteur qui, de toute façon, est voué à décliner, en fait. Hein. Il y a toutes les forces qui sont liguées contre ça. Bon, après, il y a l'aspect aussi écologique. Je ne sais pas si je développe maintenant, mais
sur l'aspect écologique, peut-être que quelque chose que j'entends souvent, alors peut-être que tu peux nous éclairer par rapport à ce genre d'affirmation, c'est de dire que, de toute manière, l'aviation, enfin l'aéronautique, ça représente, allez, seulement 5% des émissions mondiales. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut arrêter en premier.
Oui, alors effectivement, c'est un des grands arguments des défenseurs de l'aviation. Donc, ils disent que ça représente 3 à 5%. Ça dépend comment on compte, hein, si on compte les émissions de CO2 direct ou si les effets induits, donc le CO2 équivalent induit par les traînées de condensation. Et donc, les gens disent, voilà, ça permet un gros développement économique via le tourisme et tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait couper ça en premier? Alors, la réponse qu'on peut dire quand même, c'est bon, déjà, c'est ce qu'il faut mettre en perspective, hein, c'est que le transport aérien, ça concerne que 3% de la population mondiale. Donc, il y a 3% de la population mondiale qui, juste pour convenance personnelle, entre guillemets, contribue à 3 à 5% des émissions de CO2, juste pour cette partie-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé, ils ne sont pas nourris, etc. Après, alors, si on regarde les secteurs dans la globalité, hein, pour remettre un petit peu par rapport aux accords de Paris, les accords de Paris, ce qu'on dit, c'est pour tenter de tenir un réchauffement climatique sous les 2 degrés, en fait, il faudrait que d'ici 2030, on ait réduit de 40% nos émissions de CO2. Donc, ça veut dire que tous les ans, il faut réduire nos émissions de CO2 de 5%. Donc, ça veut dire en fait qu'il faut que tous les secteurs fassent l'effort en même temps. Il n'y a pas un secteur qui devrait faire moins que l'autre. Parce qu'à chaque fois, chaque secteur dit « Regardez, l'autre secteur, il ne le fait pas, donc moi, je ne le fais pas. » Donc, en fait, on a un devoir d'exemplarité par secteur de dire bah « Non, moi, je réduis aussi, je fais ma part, je fais mes 4-5%. » Donc, ça, c'est la première réponse qu'on peut dire. Et après, si on disait « Il faut pondérer l'effort avec l'utilité », comme je disais, c'est 70%, allez, peut-être 66, j'en sais rien, 60, mais en gros, une grosse partie hein, du transport aérien, c'est pour convenance personnelle, c'est pour voir de la famille. Donc, c'est quelque chose, est-ce que c'est plus essentiel que de manger? Est-ce que c'est plus essentiel que de s'habiller? C'est pas sûr. Est-ce que c'est plus essentiel que se loger? Voilà. Donc, en fait, si on devait pondérer à l'utilité, aux besoins immédiats, c'est même potentiellement, il faudrait demander peut-être un effort plus grand. Donc, c'est une des premières réponses qu'on peut dire. Alors, après, moi, j'ai une autre approche aussi, c'est de dire si nous, en tant qu'individu, on regarde notre bilan carbone individuel. Donc, si je remets dans le contexte, hein, alors, Carbon 4, là, ils sont en train de développer une petite application là, qui s'appelle MyCO2 là, pour évaluer son CO2. Mais en gros, l'application, l'idée, hein, c'est de dire voilà, quelqu'un, un Français moyen, donc on va parler juste en France, hein, si on compte aussi les importations, hein, le fait que les biens qu'on utilise sont importés. En gros, le Français moyen, il émet 11,2 tonnes de CO2 par an. Et donc, pour tenir les accords de Paris, ils font que nous, Français moyens, on tombe à 6 tonnes en 2030. Et il faut qu'en 2050, on soit revenu à 2 tonnes. Donc, ça montre quand même l'ampleur de l'effort à faire, sachant que rien que les services publics, hein, c'est 1,5 tonnes. Et donc, si... Là, c'est notre budget carbone. Sur ce budget carbone, il y a en gros du Français moyen. Donc, sur ces 11 tonnes, il y a 3 tonnes à peu près, hein, qui sont pour tout ce qui est déplacement, mais une toute petite partie qu'on considère pour le déplacement moyen en avion. Et si vous faites juste un aller-retour Paris-New York par an, bah, un aller-retour Paris-New York, c'est... alors, ça dépend comment on compte. Hein, juste le CO2 pur, ce serait une tonne. Mais en regardant l'équivalent CO2, donc avec l'effet des traînées de condensation, c'est 2 tonnes. Donc en fait, on est déjà à 20% de notre CO2 global auquel on a le droit. Et là, on n'a pas mangé, on ne s'est pas logé, on n'a pas nourri. On ne s'est pas nourri. Enfin, on ne s'est pas chauffé, on ne s'est pas nourri, bref. Donc on voit un petit peu l'effort à faire. Si on va sur des distances encore plus grandes, c'est encore pire. Potentiellement, un aller-retour en Australie, c'est en distance, ça va être à peu près, hein, l'équivalent de 3 allers-retours New York, hein, donc on est quasiment à 6 tonnes équivalent pétrole, donc équivalent CO2, pardon, 6 tonnes équivalent CO2. Donc en fait, on a brûlé notre budget CO2 sans manger, sans se nourrir pour la target 2030. Et en 2030, quoi qu'en dise Airbus, on n'aura pas d'avion à hydrogène ou quoi que ce soit, et encore, je ne parle même pas de la façon dont l'hydrogène serait produite.
Alors, c'est un sujet qu'on va aborder, si tu le veux bien. Mais déjà, je voudrais revenir sur ce que tu disais, qui est très intéressant par rapport au fait qu'on est sur une décrue, en gros, de pétrole, et que du coup, le kérosène qu'on va utiliser dans les avions rentre en compétition avec d'autres usages. Et d'autres usages, à savoir, par exemple, les camions qui, eux, viennent transporter la nourriture dans les villes, sachant que Paris a 3 jours, je crois, de résilience alimentaire si les camions ne circulent plus pour apporter la nourriture. C'est vrai que quand on regarde ça, on se dit, ah oui, d'accord, peut-être que c'est plus important de fournir du pétrole aux camions qui transportent de la nourriture pour nourrir les gens que de l'utiliser en kérosène pour aller se déplacer sur une plage de Thaïlande.
Oui, absolument. Je pense que de toute façon, si effectivement, à un moment donné, on va avoir donc une contrainte d'approvisionnement en pétrole qu'on risque de subir. Alors en plus, l'Europe, on est moins bien loti que d'autres continents. Eux, il y aura forcément des arbitrages qui seront faits. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, c'est assez compliqué parce que les raffineries, elles ont aussi des capacités de raffinement de tel ou tel type de carburant. Alors ça, je ne suis pas un expert, mais j'aurais tendance à dire que si la production globale baisse, en fait, ça va être à peu près sans changement investissement lourd. On va avoir la même baisse répartie entre kérosène ou diesel pour les camions. Mais par contre, c'est vrai que du diesel, il me semble, hein, là, ce n'est pas mon terrain de prédilection, mais c'est assez proche du kérosène, donc des ajustements pourraient être faits. Mais dans un besoin d'approvisionnement, enfin de sécurisation de tout ce qui est ressources critiques, un arbitrage serait forcément effectué. Pour donner un exemple, je pense un truc là qui m'a pas mal intéressé depuis que je regarde toute la problématique pétrole, c'est de regarder ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Donc en fait, une fois que la France est occupée par les Allemands, ce qui se passe, c'est qu'elle a plus trop accès au pétrole qui vient des colonies. Donc elle subit un blocus et du coup on manque de pétrole. Et ce qui se passe, c'est que le pétrole était utilisé uniquement pour les missions régaliennes, en fait, pour l'État. Tout le reste, il n'y avait plus de pétrole. D'ailleurs, les gens qui voulaient rouler en voiture, ils bidouillaient des trucs avec du gaz parce qu'on avait encore un petit peu des gisements de gaz en France, mais on n'avait pas de pétrole. Donc là, c'est effectivement quelque chose qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, moi, j'ai du mal à imaginer un avenir rose pour mes anciens collègues pilotes de ligne. C'est certain.
Et alors, tu parlais de l'avion à hydrogène en disant qu'en 2030, de toute façon, Airbus n'aura pas d'avion à hydrogène. Alors tout le monde, j'ai l'impression, s'excite un petit peu sur l'hydrogène, l'avion à hydrogène maintenant. Je parlais avec des amis qui sont dans l'aéronautique qui me disaient « Mais tous les ingénieurs d'Airbus aujourd'hui travaillent sur l'avion à hydrogène, on y est bientôt, ça va se développer et c'est propre. »
Alors, tous les ingénieurs d'Airbus travaillent sur l'avion à hydrogène, c'est pas complètement faux, enfin il y en a une grosse partie. Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à séparer. D'une part, Airbus en ce moment fait beaucoup de com pour justifier le fait qu'ils reçoivent des aides d'État, puisqu'en fait, ils reçoivent quand même beaucoup d'argent dans les plans de transition énergétique. Après, moi, des infos que j'ai de certains collègues dans la boîte, déjà, tout l'argent n'est pas forcément investi sur ce projet hydrogène. Il y a des fois, on peut se poser des questions, des fois, c'est peut-être, il y a un petit peu de greenwashing à droite, à gauche. Mais bon, sans rentrer dans les détails, pour l'aspect vraiment avion à hydrogène, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que des avions qui ont volé à l'hydrogène, c'est déjà arrivé. Hein. C'est arrivé dans les années 50, les Américains, ils avaient fait voler un avion de chasse à hydrogène. Et les Russes en ont fait voler un dans les années 70. 80, dans les années 80. Et en fait, en soi, l'hydrogène liquide, quand la température de combustion de l'hydrogène liquide, hein, c'est plus bas que la température de combustion du kérosène. Donc, entre guillemets, un moteur d'avion actuel, ça peut fonctionner à l'hydrogène. La problématique, c'est le stockage de l'hydrogène. Donc, ce qui s'était passé, hein, quand les Russes, ils avaient fait voler leur avion avec de l'hydrogène, hein, en gros, ça, la citerne d'hydrogène, donc il faut qu'elle soit liquide, donc c'est dans un réservoir donc, qui est ce qu'on appelle cryogénisé, hein, donc c'est où l'hydrogène est maintenu à température très très froide pour rester liquide. Et donc, c'était à l'arrière, dans le fuselage, hein, donc à la place de là où on met les passagers. Donc, forcément, il y a des problématiques de place. Donc, entre guillemets, techniquement, faire voler un avion à l'hydrogène, c'est possible. C'est possible. Après, en fonction du choix qu'on veut, de l'efficacité qu'on veut, ça va être plus ou moins compliqué. Si on décide de plus stocker de carburant dans les ailes, ça va poser des problèmes aéroélastiques, hein, sur les ailes, parce qu'un des gros trucs qui permet de stabiliser la structure d'un avion, hein, c'est le fait de mettre le carburant dans les ailes. Donc en fait, quand l'avion est lourd, on rigidifie l'aile. Là, ce sera plus possible, donc il va y avoir des contraintes à droite à gauche. Mais techniquement, c'est possible. Après, La question, c'est est-ce que là, on n'est pas en train de fabriquer un Concorde, quoi, c'est-à-dire un avion qu'on va vendre à quelques exemplaires. Parce que derrière, ça pose la question de la capacité de monter en production d'hydrogène, sachant que l'hydrogène, c'est quand même un carburant, si on peut dire, qui est compliqué à stocker, qui est compliqué à utiliser, qui est dangereux. Donc, ça suppose des normes vraiment compliquées. Derrière, après, il y a l'aspect vraiment énergétique. Je pense qu'il y a un groupe de chercheurs toulousains là, qui avait fait un petit calcul, une règle de 3, qui montrait que juste pour, si on voulait nourrir avec 100% d'hydrogène tous les avions qui opèrent au départ de Charles de Gaulle, il faudrait 16 centrales nucléaires. Ou si on dit, ben non, en fait, on ne veut pas de centrales nucléaires, on veut des énergies renouvelables, il faut couvrir la France d'éoliennes, partout. 1000 km² d'éoliennes partout. Donc, on voit un petit peu, et ça c'est juste...
dû au fait que...
Oui, pardon.
Alors du coup, excuse-moi, je t'interromps pour bien qu'on comprenne. Ça, c'est dû au fait que pour produire de l'hydrogène, en fait, enfin, ça ne se fait pas tout seul. L'hydrogène, on ne sait pas comme le pétrole, on ne le prend pas directement sous terre, en fait.
C'est ça. En fait, l'hydrogène, c'est juste un moyen de stocker de l'énergie. Mais ce n'est pas une ressource d'énergie. Donc l'hydrogène, il y a plusieurs solutions. En fait, l'hydrogène qu'on appelle un truc verte, hein, c'est-à-dire qui émettrait peu de CO2, il faut qu'elle vienne elle a été produite avec peu de CO2. Donc la méthode envisagée donc à long terme, hein, c'est par électrolyse. Donc ça utilise en fait de l'eau et de l'électricité. Et il faut que cette électricité, pour que ça ait du sens, soit peu carbonée. Donc en fait, peu carboné, hein, ça laisse très peu d'options. Hein. Soit vous le faites de façon continue avec des barrages ou centrales nucléaires, soit de façon intermittente avec du renouvelable type éolien ou solaire. Voilà. Après, il y a d'autres façons actuellement. L'hydrogène est essentiellement fabriqué à partir de charbon, par réformation du méthane, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, cet hydrogène-là, c'est ce qu'on appelle un hydrogène marron. Hein. C'est-à-dire que ça produit vraiment du CO2 à fabriquer. Donc en fait, l'un dans l'autre, si on utilisait ce type d'hydrogène, c'est plus parce qu'on serait amené à manquer de pétrole, mais ce n'est pas pour un bien, on va dire, pour un bienfait climatique quelconque.
Oui, là, on en revient aux mêmes problématiques qu'on a avec des véhicules électriques, où on se dit « Ah, c'est électrique, donc c'est propre », mais on oublie qu'en fait, l'électricité est faite au charbon.
Exactement.
Du coup, je referme un petit peu la parenthèse sur les explications de pourquoi est-ce que l'hydrogène serait intéressant ou non, est-ce qu'on va le voir bientôt ou non, l'intérêt de l'aéronautique, les perspectives de ce secteur, pour en revenir à toi et ton parcours plus personnel. Et pourquoi, en fait, donc quand tu as noté tout ça, tu as décidé de partir vers quelque chose de tout à fait différent. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir voulu essayer de changer le secteur de l'intérieur, en fait ?
C'est un petit peu ce que j'ai voulu essayer au début, quand je suis revenu à Airbus. Et alors, c'est pour ça, moi, j'avais fait des propositions. Et justement, alors, moi, je n'étais pas forcément sur l'hydrogène. Je voulais proposer le développement de tout ce qui était électrofuel. Donc, c'est du fuel de synthèse électrique. Je passe les détails. L'idée, en fait, c'est d'utiliser de l'hydrogène qu'on mélange à du CO2 qu'on a capturé dans l'air. Et donc, ça fait un fuel liquide. Donc on peut utiliser les technologies existantes d'avions existants. Et derrière, quand on le brûle, ça émet du CO2 qui était dans l'air avant. Sauf qu'en fait, en creusant ça, déjà, je me suis dit exactement ce que tu disais avant, c'est quitte à fabriquer ce type de carburant, est-ce que ce n'est pas plus important de le donner à tout ce qui est machines agricoles ou camions pour alimenter les villes que pour les avions ? Donc, est-ce qu'il ne fallait pas se diversifier et pas penser uniquement aviation ? Et après, en gros, pour moi, ce qui se passait, c'est que les gens côté Airbus, plus je discutais, donc j'ai pu croiser quand même des gens qui étaient dans tout ce qui était ce qu'ils appellent la roadmap d'électrification. Ils s'étaient obsédés par l'aspect climat, mais ils ne voyaient pas l'impact en fait pétrole, énergie, l'impact sur l'économie, donc ça allait ralentir. Et j'avais l'impression qu'en fait, on était dans deux mondes différents. Donc à un moment donné, je me disais, il faut que j'essaye de faire ma part et tout ça. Puis un jour, j'ai entendu une interview de Gaël Giraud à qui on lui posait la question, mais est-ce que c'est pas important d'avoir des gens qui ont une conscience écologique ou énergétique dans des entreprises très polluantes pour tempérer ou canaliser certaines prises de décision? Et il a répondu, il a dit, ça dépend. Si vous arrivez à faire quelque chose, oui, mais si vous avez l'impression que vous êtes juste là pour justifier des décisions qui, en fait, non, ce ne sont pas des décisions qui vont dans le bon sens, ça sert à rien, il vaut mieux partir. Et j'ai entendu cette interview. Une semaine après, il y avait une com du GIFAS, hein, donc du groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, qui était donc fortement financé par Airbus, qui faisait une grosse campagne de greenwashing de l'aérien, où justement ils comparaient des choux des carottes, hein, c'est-à-dire qu'ils montraient l'efficacité kilométrique de l'aérien en disant, bah voilà, grâce à nos projets maintenant, les avions c'est 80 grammes de CO2 km par passager. Et en fait, ils se focalisent sur l'efficacité, mais ils ne voient pas que les problématiques des émissions de CO2, c'est dans la globalité. En fait, hein. On est sur une Terre qui est finie, et c'est les émissions CO2 totales qui comptent. Et donc après, ils disaient, regardez, on émet quand même moins que le textile, oui, mais bon, s'habiller, c'est peut-être un petit peu plus important que d'aller à la plage en Thaïlande. Donc en fait, il y avait beaucoup de communication comme ça qui ne me paraissait pas honnête. Et là, je me suis dit, bon, je suis revenu à Airbus, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même des annonces où ils disaient qu'ils allaient considérer la question climatique de façon un petit peu sérieuse. Et en vrai, j'ai vu que c'était juste du vent. Et donc là, je me suis dit, en fait, c'est à ce moment-là, donc c'est à peu près il y a un an, quand il y a eu cette campagne de greenwashing du GIFAS, que je me suis dit, OK, je quitte Airbus. Et donc là, bah, d'abord, j'ai commencé à chercher à partir dans... Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec un background de pilote? Donc je me suis dit, voilà, pilote, j'ai quand même des notions de facteurs humains, j'ai travaillé dans tout ce qui est système commande de vol, je suis vraiment sensibilisé à tout ce qui est safety. Peut-être que là où je peux être le plus utile, c'est l'industrie nucléaire, parce que ce n'est pas très, très populaire, ça fait peur aux gens. Mais on sent, d'après tous les rapports du GIEC, même Greta, qui n'est pas fan du nucléaire, elle nous dit, hein, il faut y aller. Bah, est-ce que je ne peux pas contribuer à la baisse des émissions de CO2 en allant dans l'industrie nucléaire? Donc j'ai commencé un petit peu à chercher un job là-dedans. Et au même moment, bon, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un ancien collègue qui m'a contacté pour une idée un petit peu folle. Et mon côté un petit peu aventurier, personnage de BD, a dit, bon, bah, on prend l'idée un petit peu folle et puis on verra. Donc voilà.
D'accord, donc c'est un peu l'occasion qui a fait le larron, si je puis dire.
C'est ça.
Et par rapport à... Quelles sont les relations que tu as avec tes anciens collègues, les gens qui travaillent aujourd'hui encore dans l'aéronautique? Vous échangez par rapport à ces problématiques-là? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ton départ, à ce que tu racontes sur les problématiques de pics pétroliers ou même d'impact climatique?
Alors, ça dépend lesquels. Il y en a qui ont très, très bien compris et qui sont lucides et qui se disent, bah, il va falloir que je ne tarde pas à partir. On va dire des gens assez proches. Après, il y a d'autres gens qui sont, en particulier, parce que j'ai dû m'expliquer à mes chefs en série, où c'est à Airbus, on allait N+1, N+2, N+3, mon N+3 était complètement bloqué. Ils ne comprenaient pas. Et en fait, j'ai essayé vraiment de faire un petit peu de pédagogie, mais à un moment, j'ai juste dit, je ne vais pas lui faire trop de mal, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, dans l'explication. À un moment, il m'a dit, par exemple, mais pourquoi tu pars dans ces petites boîtes, tu n'as aucune perspective de carrière, qu'est-ce que tu feras dans 15 ans, alors qu'Airbus, tu aurais pu avoir un bon poste? Et moi, j'avais envie de lui dire, mais dans 15 ans, Airbus, je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit où on aura envie de travailler. Mais ils ne comprenaient pas. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, en plus, c'est assez marrant, parce que quand on vient de l'aéronautique, en plus, j'étais pilote, c'est qu'on nous apprend tout ce qui est facteur humain, justement. Et donc, à se méfier de tout ce qui est biais cognitif et à prendre du recul, à essayer pour prendre la bonne décision et pas être enfermé dans un biais. Eh bien, en fait, malgré ça, malgré qu'on est dans une industrie, pardon, qui apprend à se méfier des biais cognitifs, les gens, ils sont complètement enfermés. J'ai le droit à des réponses du genre, mais l'homme a toujours, c'est dans la nature de l'homme de voyager, il a toujours voyagé, ils n'accepteront pas de plus avoir d'avion. Et moi, je leur répondais gentiment, mais oui, l'homme, il a toujours voyagé, mais à pied ou en bateau. Mais s'il n'y a plus de pétrole, l'avion, ce sera réservé en fait à une élite. Ce sera vraiment un marché de niche, ce ne sera plus quelque chose de démocratique. Et si on réfléchit, hein, l'avion, c'était réservé à une élite jusqu'à dans les années, début des années 80, et ça ne me choquerait pas que dans 20 ans, ça soit de nouveau réservé à une élite. Ce serait en fait, c'est juste, il faut regarder la courbe du pic pétrolier, et puis après, disons qu'en plus, la descente risque d'être un petit peu plus raide que la montée, hein, puisqu'il y a plus de consommateurs maintenant. Et donc, si on place un symétrique, hein, ce que je disais avec les histoires de finesse utile, on risque de voir les avions disparaître avant, devenir un transport plutôt d'élite en premier, puis après la voiture particulière disparaître gentiment, et puis après il ne restera plus que le car, et puis le train et le bateau, en fait. Hein, mais sans que ça soit forcément quelque chose de catastrophique non plus. Hein, mais ça risque d'être le sens de l'histoire, et c'est juste une limite physique pour moi. Donc voilà. Mais ils n'arrivaient pas. Enfin, beaucoup de collègues sont bloqués. Pourtant, c'est des ingénieurs. C'est ça qui est terrible.
Tu as essayé un petit peu de convaincre, de travailler là-dessus, de faire bouger un peu ce système.
Alors, j'ai essayé. Alors, en fait, pour la petite histoire, il y en a que j'ai convaincu et que je débauche, qui rejoignent notre aventure de transport vélique. Et donc, voilà. Mais il y en a, en fait ce qui se passe, hein, c'est que les gens, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur confort. On a Airbus. En fait, jusqu'à avant la crise du Covid, les gens s'imaginaient qu'Airbus, c'était indestructible. Donc, il fallait rester là, c'est bien, on a la petite vie tranquille, on a nos congés payés. Donc, en fait, on veut rester dans un domaine qu'on connaît. Et moi, je leur disais, mais non, il faut partir à l'aventure, parce que plus on attend, plus ça va être difficile de partir à l'aventure. Et puis, quand on le choisit, on est dans une bonne disposition, mais si on le subit, entre guillemets, si Airbus vous met à la porte dans 5 ou 10 ans, bah là, ça va être très compliqué, parce que vous ne serez pas préparé. Mais ça, honnêtement, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à interpréter. Pour donner un exemple, donc j'ai quitté mon ancien Airbus pendant le confinement. J'ai donné ma démission avant le confinement, et quand ça a commencé à se tendre un petit peu avec la crise du Covid, j'ai reçu un mail très gentil de la RH qui me dit « Vu la situation, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux nous quitter ? Est-ce que tu veux pas plutôt rester Airbus, parce que là quand même tu sais pas comment ça va tourner. » Et moi, j'avais l'impression d'être le gars qui était sur un énorme paquebot là dans l'Atlantique Nord, au milieu des icebergs, qui s'est préparé à monter dans son kayak de mer pour partir continuer la traversée à la rame au milieu des icebergs. Donc effectivement, hein, les probabilités que ça marche sont pas, ça reste l'aventure. Et à ce moment-là, le paquebot heurte un iceberg, ça devient le Titanic, et là les gens, sous l'effet de sidération, disent: ah, tu veux pas remonter à bord, il fera quand même plus chaud. Bon, bah voilà, quand on connaît la suite de l'histoire, on est peut-être mieux dans le kayak que dans le paquebot qui coule au chaud à jouer de l'accordéon avec l'eau qui monte autour, quoi. Mais bon, et je l'aurais fait un petit peu, hein, cette métaphore, mais il n'y a pas eu de. Je sais pas, je dois pas être très bon prof, très, très pédagogique, j'arrive pas à convaincre. Ou encore une fois, hein, c'est vraiment le confort. Le confort auquel on est accroché, les gens, ils ont acheté des appartements à Toulouse, ils ne se voient pas bouger, et voilà, et ils sont bloqués, en fait. Ils s'enferment dans un système qui me paraît compliqué. Mais je garde quand même, enfin, j'ai de plus en plus de gens qui gardent quand même un petit peu contact avec moi, et certaines qui me posent des questions. Donc, c'est pas impossible. En fait, je pense que chaque personne a besoin du temps qu'il faut pour évoluer, parce que c'est quelque chose aussi quand on annonce toutes ces nouvelles et qu'on était dans des certitudes, bah on s'en débarrasse pas comme ça. Il faut un petit peu de temps. J'ai envie de dire, moi, je suis le premier. Hein, ça fait, on va dire, de guillemets, depuis 2006, 2007, 2008 que je suis bien informé. Et voilà, il m'a fallu attendre 9, 10 ans pour prendre une décision, on va dire, cohérente et qui redonne du sens à ce que je voulais faire. Donc, je comprends, en fait, que chaque personne a besoin de prendre le temps qu'il faut. Voilà. Après, la question, c'est comment réduire ce temps, en fait, parce qu'on a besoin d'accélérer ça. Hein. C'est ça qui est chaud.
Et justement, sur cette question de sens, comment est-ce que toi, tu te sens aujourd'hui, alors que finalement, bah, t'as dit non à un beau poste, un gros salaire, un certain confort de vie, que tu repars à l'aventure, même si bon, on a quand même compris que l'aventure, c'était aussi un peu ton truc. Mais comment est-ce que comment est-ce que tu te sens par rapport à ça?
Super bien. En fait, pour être franc, j'aurais très très mal vécu, par exemple, d'être Airbus au moment où ils ont mis en place les mesures de chômage partiel et de recevoir de l'argent de l'État juste pour me nourrir, alors que je suis dans une industrie qui est, à mon avis, pas une industrie d'avenir, pour les raisons que j'ai expliquées. Et là, au contraire, même si, bon, voilà, c'est l'aventure, le fait de bosser sur un projet qui a un but, hein, qui pour moi est de réduire les émissions de CO2, mais aussi réduire la dépendance aux énergies fossiles dans le transport maritime, ce qui peut avoir du sens dans les années qui arrivent, hein, parce que si on a une contraction énergétique, ça va être compliqué. Alors, je ne dis pas mondialisation à outrance, c'est bien, mais pour les bateaux qui vont continuer de naviguer, on va peut-être être content de pouvoir échanger de la nourriture ici et là en fonction des aléas climatiques à droite à gauche pour se porter secours entre différents pays. Voilà. Donc, pour moi, c'est contribuer à un projet dont le but, ça est d'atténuer les chocs auxquels on va être amené, on va faire face dans les prochaines décennies. Et donc après voilà, l'histoire reste à écrire. On ne sait pas comment ça va se passer, mais le fait d'essayer de contribuer à écrire une page d'histoire dans le bon sens, je trouve ça super motivant. Moi, je vois ça, alors c'est une échelle complètement autre, mais finalement, pareil, pour revenir analogie avec la Seconde Guerre mondiale, quand en 1940, il y a des gens qui ont dit, bon, on va essayer de faire des petites actions de résistance sans trop savoir où ça sera dans 4 ou 5 ans, et puis il y a les gens qui ont plutôt choisi de rester tranquille, de ne pas se mouiller, et puis ceux qui ont dit au contraire, il y a peut-être un business à se faire avec la situation actuelle. Il y avait trois options. Là, je pense que c'est pareil, il y a trois options. Hein. C'est soit on essaie d'être acteur de tout ce qui est transition énergétique pour faire face aux défis hein, énergétiques et climatiques auxquels on va faire face, soit on est un petit peu dans le statu quo, soit au contraire, on voit des opportunités pour se faire du beurre tant qu'on peut avec des industries très polluantes. Et c'est à chacun de choisir son camp. Donc, mais je dirais par expérience personnelle, vaut mieux choisir quelque chose avec lequel on se sentira bien dans quelques années. Alors, c'est quelque chose d'assez personnel, hein, mais j'ai eu, quand j'étais, donc je disais que je faisais beaucoup d'alpinisme, j'ai eu un gros, gros accident de montagne quand j'étais jeune, justement, au moment où je me suis posé toutes les questions-là, hein, quand j'étais étudiant. J'ai fait une chute de 30 mètres en cascade de glace, donc en fait, les probabilités de survie sont quand même pas très, très bonnes. Et j'ai eu le temps de me voir un petit peu mourir et de passer après un petit peu de temps à l'hôpital. Et à ce moment-là, en fait, ce que je me suis dit, c'est merde, t'as failli mourir là. Alors que t'as servi à rien. Et ça, c'était un petit peu une obsession pour moi. C'était de me dire, il faut quand même essayer de servir à quelque chose dans sa vie, quoi. Parce que si t'as juste servi à rien, en plus, je passe le côté familial, tout le monde qui serait en pleurs si on meurt à 20 ans, c'est quelque chose qui est terrible quand ça arrive. Mais c'était pour moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'était de me dire, t'as appris et derrière, t'as rien rendu à la société, t'as servi à rien. Et là, donc c'est pour ça que dans les 10 premières années de ma vie, ma motivation, c'était vraiment améliorer tout ce qui est safety des avions. Et avec le recul, je me dis, mais finalement, le transport n'a rien. Vu ce que c'est devenu, c'est peut-être pas un secteur d'avenir et tu n'as peut-être pas servi la société dans le bon sens. Donc là, c'est redonner du sens pour essayer de se projeter par rapport aux réalités énergétiques et climatiques qui ne font pas toujours plaisir à entendre, hein, mais qui sont, factuelles et facilement objectivables.
Alors c'est une question que j'ai encore jamais posée, mais qui moi m'obsède en fait depuis que j'ai commencé à changer de mode de vie aussi. C'est la question de la dette envers la société. Donc j'en profite parce que tu en parles un petit peu. Moi, il y a quelque chose qui m'obsède du fait d'avoir fait des études grandes écoles de commerce, mais je pense que c'est la même chose pour les études d'ingénieur. C'est le fait que ces études, elles ont été en grande partie payées par la société, par l'État. Et que aujourd'hui, en fait, ne pas s'investir dans quelque chose qui rapporte à la société, enfin, qui est de redonner, en fait, c'est quelque chose que je trouve d'assez incongru et de presque, enfin, fou, en fait.
Oui. Non, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que moi, justement, j'avais fait le calcul à ce moment-là. J'ai calculé qu'entre entre mes études, donc en plus Supéro, hein, c'est ministère de la Défense, hein, c'est 30 000 euros par an, plus les secours en hélicoptère pour venir me chercher, plus les longues semaines à l'hôpital payées à 100% par la Sécu. Hein. En fait, on a des assurances et tout, mais dès que vous êtes blessé grave et tout, c'est l'hôpital public et c'est pris à 100% en charge. Moi, j'ai calculé que j'ai coûté 150 000 euros à l'État, juste pour les études supérieures et ma petite escapade en montagne. Et là, effectivement, on se dit, quand on a une dette comme ça vis-à-vis de l'État, on a un devoir en fait, moral de servir, en fait, de servir le pays qui nous a payé ça. Parce que finalement, à un moment, c'est ce que je disais, je faisais le calcul, c'est que même si je payais beaucoup d'impôts sur le revenu, rien que mes impôts sur le revenu, ça ne va pas suffire en 20 ans à rembourser la dette que je dois à l'État. Donc ce qu'il faut, parce que derrière, du coup, c'est juste payer ma propre formation, mais qu'est-ce que j'apporte en plus, quoi, puisque j'ai vraiment été un privilégié. Et donc là, je suis parfaitement d'accord, et je pense que c'est nous, ingénieurs, on a vraiment un devoir de s'engager là-dessus pour rendre à la société ce qu'elle nous a donné. Et des fois, la société, justement, ne sait pas exactement ce qu'il faut, hein, parce que c'est un problème complexe. Et Voilà. Après, c'est là où justement, je pense que là, il y a des initiatives intéressantes qui sont en train de se lancer côté Shift Project, hein, justement. Et ça va être intéressant de suivre, de voir comment nous, ingénieurs, on peut contribuer à améliorer tout ça.
Alors, pour finir cette interview, je voulais savoir si tu as des conseils ou des messages à faire passer, justement. Alors, j'allais dire, peut-être à tes camarades de l'aéronautique ou tes anciens camarades de SupAéro, est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose de particulier ?
Oui, je pense que... Bon, alors, c'est de prendre le temps déjà de bien comprendre les problématiques pour ne pas se retrouver au pied du mur de façon non préparée. Donc, pour ça, j'en ai un petit peu parlé. Je pense que tout ce qui est les cours des mines de Paris de Jean Covici sont très bien. Largement accessible, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour comprendre. Le bouquin de Mathieu Zano, Or Noir, c'est un de mes préférés, lui ça a été vraiment un déclic. Donc je pense que ça c'est quelque chose pour bien comprendre un petit peu, c'est vraiment important de comprendre l'ampleur du défi auquel on va être confronté, auquel l'aéronautique va être confrontée. Et après, une fois qu'ils ont compris ça, je dirais surtout, donc je pense ingénieur ou pilote, c'est se dire où est-ce que je peux apporter et se dire qu'il y a des secteurs où on a besoin d'ingénieurs. Donc pour ça, peut-être pour avoir des idées, je pense que lire le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, qui est disponible sur leur site, ça peut donner des idées. Moi, dans les grandes lignes, en tant qu'ingénieur, j'avais tendance à dire, tout ce qui est production d'énergie décarbonée, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est les mêmes compétences que dans l'aéronautique. Avec un background de pilote, tout ce qui est orienté facteur humain dans le nucléaire, mais pas que, il y a des choses aussi qui sont... intéressante à creuser, donc il y a aussi des reconversions possibles à ce niveau-là. Mais après, il y a plein de choses, il faut se faire sa propre idée, hein. Ça peut être il y a des gens qui vont vouloir partir dans l'agriculture ou autre, moi je vous fais partie des choses que je regardais aussi, hein, peut-être à plus long terme, mais pour résumer, bien se documenter et pour avoir des idées de comment contribuer, lire les publications du Shift Project, c'est très très bien, et c'est pour un public d'ingénieurs ou de pilotes, c'est très bien, très accessible.
Jérôme, je te remercie vraiment pour ton témoignage, toutes ces informations et ton éclairage sur ce secteur, et je te souhaite bon courage dans ta nouvelle aventure que je trouve passionnante, le transport vélique. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de génial, où il y a beaucoup de choses à faire, une filière à reconstruire aussi, donc vraiment bonne chance dans cette nouvelle aventure.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !